Dans ce troisième et dernier épisode de Transcendance musicale, on continue sur notre route de la compréhension du lien entre création musicale et la nature en tant que force créatrice. Et si finalement la musique dépassait les individus ? Pays spirituel par excellence, c'est en Inde que nous sommes pour cet épisode, avec notamment Renaud Brizard, ethnomusicologue spécialiste de l'Inde, et Arthur Knörr, musicien amateur de culture indienne. Cosmogonie indienne, c'est donc le titre d'un court extrait d'une conversation d'une heure à laquelle a aussi participé Sophia Marty, et agrémenté des propos de Camille David, ethnologue et membre de l'association EthnoArt.
Quand on écoute la musique, c'est une musique, je trouve, qui a une fluidité qui apparaît naturelle, dans le sens où déjà, bon, elle nous apparaît... c'est une musique complexe, comme disait la... Amir Khusrow, là, quand il dit les étrangers qui viennent en Inde, même après 40 ans dans le pays, n'arrivent pas à jouer une mélodie indienne, parce que je pense qu'effectivement, il y a cette culture qu'on te transmet, et puis aussi que tu gardes par ton ADN et par ton ancestralité, qui t'amène aussi à cette sensibilité. Et c'est vrai, quand on voit, comme je disais, ils ont des rythmes au tabla à 118 ans. Tu vois, 118 ans, ça veut dire qu'il faut être dans une vision de développement et de sensibilité sur justement la nature, toutes les anfractuosités, toutes les différents aspects que tu peux rencontrer, tu vois, pour exprimer des choses. Et il y a le côté aussi, la manière dont tu dois improviser sur la musique modale. Donc c'est-à-dire que tu as quelques notes, donc dans le svara. On parlait aussi des shruti, donc c'est toutes les différents centièmes que tu peux avoir à partir de la corde, comment tu l'as fait monter, comment tu l'as fait descendre, et tout ça, ça exprime en fait des sentiments.
Une des questions déjà fondamentales, c'est est-ce que la musique, c'est universel ? Est-ce que la musique existe partout ? Partout, on a, effectivement, on entend. On entend ce que nous, on appelle musique. Mais en fait, musique, dans ce que vous venez d'écrire, on est face à une catégorie qui vient désigner une certaine manière de mettre des sons entre eux. Mais effectivement, c'est une catégorie. La question de l'ethnomusicologue, c'est déjà est-ce que cette catégorie, elle est universelle ? Est-ce que toutes les sociétés ont une catégorie musique ? Est-ce qu'elles disent qu'elles font de la musique ? C'est déjà une question qui n'est pas facile à traiter. Parce que pour faire de la musique, il faut avoir soi-même dans sa culture une catégorie musique. Se dire que quand je fais telle et telle note qui sont ensemble, c'est de la musique.
Le si bémol légèrement augmenté, c'est le tivra, il est intense et poignant. Le croda, c'est le mi bémol, il est coléreux et furieux. Le marjani, c'est notre fa, il est purifiant. Alapini, il est parlant et conversant. Donc je trouve que, par exemple, le kumudvati, c'est le si, c'est le lotus blanc. Et c'est vrai que quand tu prends chaque note, ça veut dire que tu l'envisages de cette manière. Donc tu es dans un lien beaucoup plus intrinsèque avec la sensibilité naturelle, tu es beaucoup moins dans quelque chose de technique. C'est beaucoup moins mathématique que, par exemple, la vision du solfège qu'on peut avoir en nous. À notre échelle, comment dans l'éducation à l'occidentale. Mais l'Inde, je trouve effectivement, il y a vraiment ce côté lié. T'as l'impression d'entendre le sitar, pas comme un petit oiseau qui est en train de virevolter, de chanter. C'est une musique qui rappelle l'eau. Et le tabla est tellement de subtilité, ça rappelle du minéral, ça rappelle. Ouais, c'est ça, tout l'Inde. Une vie foisonnante et tu vois, que tu peux juste admirer et que tu peux pas contrôler aussi quelque part. Que tu t'es obligé de te laisser contrôler par la musique qui vit en toi. Et pour ça, ce que j'aime bien avec ça, c'est que la musique, elle dépasse les interprètes. La musique, elle est plus forte, et la culture plus forte que la personnalité en soi. Et ça, pour moi, je trouve que c'est la force et la valeur d'une grande culture musicale, dans le sens où, en fait, c'est trop vaste pour être compris. Donc, du coup, il faut juste se plonger dedans et ressentir et être, en fait, dans le présent et la vie. Et après, on rejoint toutes les choses de méditation, de yoga, toute leur culture, d'être dans le présent, dans le moment, et d'être... tu vois, dans cette espèce de phase.
Voilà. Ça me fait penser à deux choses que ce que tu dis. Quand tu dis que la musique dépasse les individus, on parle, ça dépend de quoi on parle, mais si on parle des musiques traditionnelles ou classiques, il n'y a pas de notion d'auteur. Du coup, c'est des musiciens, des interprètes, mais il n'y a pas de composition comme il y aurait une composition de Mozart ou Beethoven. On va avoir tel musicien, tel grand musicien qui va jouer dans tel mode. Il y a des apports comme par exemple un interprète qui commencerait à à mixer deux ragas, donc deux modes différents. Donc ça, on va pouvoir se dire, ah ok, c'est plus emblématique de telle personne ou de telle école, parce que là, notamment en musique classique, il y a des écoles stylistiques qu'on appelle Gharana, qui sont associées à d'anciens palais royaux, justement. Mais on va pas dire qu'ils ont créé telle composition ou telle pièce. Donc déjà, il n'y a pas cette notion d'auteur. Donc c'est aussi pour ça que tu as sûrement le sentiment juste que la musique dépasse les individus. Et autre chose, par rapport à ce que tu disais, prendre son temps, ce qui est intéressant, c'est que justement les modes de la musique classique, les ragas, sont censés être joués à un moment donné de la journée, voire à une saison particulière. Donc c'est une musique qui prend en compte l'état du corps et sa capacité à recevoir la musique. Parce que si un mode peut y jouer plutôt le matin ou plutôt le soir, c'est qu'on prend en compte, je sais pas si on peut parler de métabolisme ou de disposition du corps, à recevoir certaines choses, recevoir certains moods, enfin certaines couleurs. Du coup, il y a un fort lien entre la musique et le corps et la réception du corps.
C'est vrai aussi, quand tu vois ces divinités avec 12 têtes en train de tirer la langue, en train de faire des couleurs partout, je pense qu'il y a quand même un lien, tu vois, de la nature. Bah justement, la nature, elle te donne des plantes et des choses, tu vois, pour t'évader mentalement, partir dans des univers. Et donc, je pense qu'il y a ce côté-là aussi, il y a cette espèce de... Bah, quand tu te mets, tu prends ces plantes, tu prends de l'opium, tu prends la ganja, etc., bah, je pense qu'en plus, ça te focus énormément sur ton environnement. Donc sur les animaux que tu peux avoir, donc sur la sensibilité que tu vas avoir de leur son, de leur manière. Et effectivement, quand on regarde la gamme indienne, là, que je recherchais encore pour la faire dans le bon ordre. Où est-ce que j'ai mis le bazar? Attends, il faut le retrouver parce que c'est important. Et d'ailleurs, ils disent que cette manière d'appeler les notes, donc c'est la gamme de Do, tu vois. C'est ce qui a influencé notamment Guido d'Arezzo au XIe siècle. C'est un moine italien qui a inventé Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Aussi de l'influence de la musique indienne d'appeler en fait les notes par les syllabes. Les syllabes que nous allons retrouver... Oui, elles sont là. Allez. Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Sa, Ri, Ga, Ma, Pa, Da, Ni. Et donc chaque son, il est relié à un animal, au son d'un animal. C'est là aussi, j'en viens, où le fait, quand t'es sous opium et sous ganja, à forte échelle, et franchement, les sadhus, les mecs, ils sont en train d'être fonce-car en permanence, tu vois. Appelons un chat, tu vois. Essayons de dépasser un petit peu les... Donc, il disait par exemple que le sa, le do, c'est le son que fait le pan quand il y a un ciel tourmenté. Le ri, c'est le son de la vache, la note que fait la vache quand on lui enlève son veau. Le ga, c'est la chèvre qui bêle. Donc tu retrouves ce son, ting, et ça va être ton mi, par exemple. Donc chaque son de la gamme, il a été pris sur un animal de l'environnement, et donc il est dans cette espèce de cosmogonie et en même temps l'univers autour de soi. Donc il est complètement relié aussi avec, effectivement, tu vois, la nature environnante. Et tu joues en t'inspirant comme ça du son de tes animaux. Et tac, après, t'en fais un peu ce que tu veux à partir de ton interprétation et ta manière de ressentir ton univers. Et ça, je trouvais ça très important à signaler. Alors, nous avons quelques instruments de la collection Alain Danielou. Ça, c'est un petit instrument de Rajasthan. Qu'est-ce qu'on a comme peau ici, Monsieur Danielou?
Bah, je pense qu'on a... J'arrive pas à savoir si c'est une peau naturelle, mais souvent pour les percussions...
C'est chèvre, ouais.
Il y a des poils.
Ouais.
Je pense que c'est de la peau de chèvre. Et justement, quand tu poses cette question par rapport à la fabrication des instruments, bon, déjà, il y a un rapport à la nature, puisque bah, tous les instruments, c'est des produits... Enfin, c'est des matériaux naturels. Ça va être... notamment du bois pour beaucoup d'instruments, du bambou,
du minerai pour les clochettes,
exactement, mais aussi des matières animales. notamment pour les tambours ou pour les instruments à cordes pour la table d'harmonie, et aussi pour les cordes, où des fois on va se servir de boyaux d'animaux ou de tendons. Et du coup, moi je sais qu'au Rajasthan, ce rapport aux matières animales a pu rentrer dans le déclassement de certaines castes qui utilisent des instruments avec des matières animales, parce que forcément, il y a un côté, dans leur vision, un côté impur à avoir sous les mains des animaux morts. Donc on a pu avoir une différence de hiérarchie entre les purs vocalistes qui n'ont pas de rapport avec aucune matière, avec les musiciens qui vont jouer d'un instrument type flûte, ou voilà, ça va être du bambou, et des instruments qui ont vraiment une peau de chèvre ou des boyaux sous leurs mains. Ça, c'est un truc auquel ta question me fait penser. Je rembraye sur autre chose parce que tout à l'heure tu posais une question sur est-ce qu'on peut entendre le respect des Indiens vis-à-vis des animaux dans leur musique. C'est quelque chose qu'on pourrait répondre en beaucoup de... Enfin, il faudrait du temps pour répondre à ça, puisque l'Inde, c'est beaucoup de religions, de pratiques religieuses différentes, avec notamment ce qui les distingue les unes des autres, c'est le rapport à l'animal, quel animal on mange et quel animal on ne mange pas, quel animal est sacré. Du coup, forcément, ça a un impact sur la musique, puisque c'est une musique qui est liée à ces sociétés. Et tout à l'heure, je disais qu'il y avait certains musiciens de caste dont la spécialité, c'était la musique, mais il y en a qui ont une double spécialité, ça va être la musique et le rapport au serpent. C'est un truc qu'on retrouve au Rajasthan. On a un peu l'image du charmeur de serpent, qui charme le serpent avec sa flûte ou un instrument avant. Et c'est pas si loin de la vérité, dans le sens où il y a vraiment des musiciens qui sont spécialistes des serpents. Ça veut dire qu'ils sont à la fois spécialistes de rendre hommage aux divinités serpents à travers leur musique.
C'est Shiva qui a toujours son cobra.
Exactement, en plus. Ouais, exactement. Donc c'est effectivement lié à ça, mais moi je sais que ma directrice de mémoire, qui est une ethnomusicologue qui s'appelle Christine Guibaud, elle a étudié justement une caste de musiciens spécialistes des serpents. C'est des musiciens itinérants qui font du porte-à-porte, et en fait ils vont rendre hommage aux divinités serpents qui sont dans les jardins des gens. Au fond des jardins, il y a des petites statuettes qui représentent des serpents, et donc pour leur rendre hommage, les rendre heureux, on fait chanter ces musiciens. Mais ces musiciens sont aussi appelés en cas de morsure, de piqûre, ou si on trouve un serpent dans le jardin pour le faire partir, quoi. Il y a une population dans l'état du Tamil Nadu, c'est-à-dire c'est le sud de l'Inde, qui vit dans les montagnes Nilgiri, donc c'est les montagnes du Tamil Nadu, et qui récolte du miel sauvage, c'est-à-dire dans des ruches naturelles dans la forêt, et qui, au moment de faire cette récolte au miel, en fait, a un répertoire de chants spécifiques pour exprimer leur amour des abeilles, puisque le miel est vraiment important pour eux. Ensuite, c'est quelque chose qu'ils peuvent revendre, ça a vraiment une valeur d'échange. Et en fait, ces chants ont aussi le pouvoir de calmer les abeilles pendant qu'ils récoltent ce précieux nectar, en fait. Mmh.
C'est donc la fin de Transcendance Musicale. Alors un grand merci à Loïs Zongo, à Max Silla, à Brigitte Costa-Léardé, à Renaud Brizard, Arthur Kner, Sophia Marty et à Camille David de l'association Ethnoart. Les extraits sonores que vous avez entendus sont soit des titres originaux des artistes eux-mêmes ou issus des fonds de la médiathèque musicale de Paris. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces épisodes en podcast sur le site de radiocampusparis.org.